France Culture, il est 16h. Tout de suite, Planète Terre, Sylvain Kahn.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Terre, l'émission de géographie et des enjeux globaux de France Culture. Comme chaque mercredi, nous sommes ensemble en direct de 16h à 17h, mais nous sommes aujourd'hui dans le studio 109, car nous accueillons toute une classe de terminale, la terminale ES1 du lycée Henri Avril de Lamballe, dans les Côtes d'Armor, venue exprès. Pourquoi ? Car nous faisons aujourd'hui une émission sur l'avion. L'avion. Quand bien même tout le monde ne l'utilise pas encore, l'avion incarne notre époque de mobilité généralisée. En réduisant considérablement les temps de transport, le trafic aérien a considérablement réduit les distances. Alors tout voyageur aérien en a fait l'expérience. Vu d'avion, le monde n'est plus le même. En 2016, le nombre total de passagers devrait s'élever à 3,8 milliards qui voyageront sur quelque 54 000 routes aériennes. Ce faisant, les déplacements dans le ciel ont généré un nouveau type de territoire au sol, l'aéroport. De quoi cette démocratisation de l'avion est-elle le nom au juste ? S'agit-il d'une mondialisation réussie, heureuse, comme nous invite à le penser le dernier et beau numéro de la revue Questions internationales que publie 6 fois par an la documentation française et dans lequel ont écrit nos deux invités. Le grand titre, c'est « Le transport aérien, une mondialisation réussie ». Très belle couverture orange dans un grand coucher de soleil. Ou bien cette démocratisation de l'avion est-elle le nom d'une territorialité à deux vitesses et d'une injustice spatiale. Il y aurait le monde des mobiles et le monde des sans-vols, le monde des cosmopolites et le monde des enracinés, le monde des traverseurs de contrôle biométrique et le monde des damnés des zones de rétention. Comme l'a montré le film Bird People de Pascal Ferrand, il y a aussi un peuple de ces aérogares devenus des villes qui travaillent au sol jour et nuit dans l'ombre pour tous ceux qui vont prendre l'avion. Si je ne m'abuse, il n'y en a 60 000 rien qu'à Roissy Charles de Gaulle. Sont-ils des soutiens de la mondialisation ? Bref, comment l'avion transforme le monde, c'est le sujet de Planète Terre cette semaine. Alors nous en parlons avec deux invités qui vont donc nous apporter des éléments de réponse à ces différentes questions. D'une part, Pierre Ageron. Bonjour Pierre Ageron.
Bonjour.
Pierre Ageron, vous êtes géographe, vous enseignez à l'université de Strasbourg, vous êtes chercheur au laboratoire LIV, qui est également une unité mixte de recherche avec le CNRS, et je crois qu'on peut dire que vous êtes le spécialiste de la géographie du transport aérien, en tout cas pour la géographie francophone. Et puis à côté de vous, Jean-Baptiste Frétigny. Bonjour Jean-Baptiste Frétigny.
Bonjour.
Les auditeurs de Planète Terre se rappellent peut-être que vous étiez venu leur parler il y a quelques années de cela, des aéroports, car vous êtes, vous, si je ne m'abuse, le spécialiste de la géographie francophone et peut-être même internationale des aéroports. Vous êtes maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a maintenant un nombre très très important de passagers, hein, 3,8 milliards de passagers chaque année. Ça ne veut pas forcément dire 3,8 milliards d'individus uniques. C'est un volume qui a triplé en 25 ans. Alors, l'un et l'autre, est-ce que vous parleriez plutôt de démocratisation ou de massification ? Pierre Ageron.
Eh bien, pour commencer, je dirais que les deux, dans une certaine mesure, sont valables. Après, il faut nuancer. Massification, bah, vous l'avez dit dans les chiffres, elle est indéniable. Démocratisation, c'est plus discutable. Démocratisation, oui, parce qu'effectivement, de nouveaux types d'acteurs sont apparus, hein, notamment, je pense en premier lieu aux compagnies low cost, compagnies aériennes low cost, qui ont permis, effectivement, une régularité et une massification, une ouverture vers d'autres publics à des possibilités de vol plus nombreuses. Finalement, elles ont pris la suite de ce qui s'appelait dans les années 70-80 des charters.
Alors attendez, les charters, ça fait partie des questions que je voulais absolument vous poser. Pour ne rien vous cacher, ça fait des années que je ne savais pas à qui poser cette question. J'en profite. Que sont devenues les compagnies de charters ? On parlait de compagnies de charters, ça a fait rêver et ça a permis à beaucoup de gens de voyager dans les années 70 et 80. On n'en entend plus jamais parler maintenant. Ça existe encore, Pierre Ageron ?
Elles continuent, oui, elles continuent. Elles continuent, mais elles sont, disons, noyées sous une actualité low-cost et de création de nouvelles compagnies qui ont pris une part de plus en plus importante dans la variété à la fois des dessertes aériennes, mais aussi des motifs de voyage aérien, que ce soit affaires, loisirs, ou même des voyages pour raisons familiales, migratoires ou autres. Donc elles existent, mais elles n'ont pas forcément les mêmes publics qu'il y a 30 ans.
C'est quoi, Jean-Baptiste Frétigny, ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait une compagnie charter? D'ailleurs, d'où vient ce mot?
Compagnie charter, en fait, charter, donc c'est de l'anglais. Et en gros, ça veut dire affréter un avion, louer un avion. Ce qui est le cas, en fait, parce que le modèle, au départ, le modèle économique des charters, c'est en fait des tours opérateurs qui vont en fait louer des avions et chercher à remplir au maximum ces avions qui sont des avions pour des vols non réguliers, hein, puisque jusque dans les années 90 pour l'Europe, les liaisons aériennes étaient extrêmement régulées d'État à État, et une des manières d'échapper à cette régulation, donc c'était justement de faire des liaisons ponctuelles, et c'est ce que font en fait ces compagnies charter, et quitte à vendre au dernier moment en fait à des prix très bas finalement le billet d'avion. Et quitte aussi, pour ceux qui achètent ce type de billet charter ou bien un voyage tout compris, d'avoir finalement une sorte de coupon et de savoir un peu au dernier moment, 3 jours auparavant, finalement, quel vol ils vont prendre, parce que justement, ces compagnies cherchent à optimiser au maximum. Et c'est vrai que finalement, ces charters, ils existent toujours, mais ils vont plus forcément se présenter sous cette étiquette. Et puis, il y a aussi une certaine convergence finalement du modèle des charters avec le modèle des low cost, qui fait que finalement il y a un brouillage des limites entre les deux. Néanmoins, et c'est ce qui m'avait frappé à propos de Roissy, c'est qu'on voyait que ça rejoint cette question démocratisation ou massification. Finalement, les passagers des charters se retrouvaient être en plus grand nombre des employés, des ouvriers et des femmes, proportionnellement aux compagnies low cost et encore plus par rapport aux compagnies classique.
Pierre Ageron, les compagnies charter, ça représente à peu près quelle part du trafic aérien ou du volume ? Je ne sais pas quel critère employer.
Je ne pourrais pas vous dire très précisément. Il faudrait voir si l'IATA a ces chiffres précisément.
Il me semble avoir trouvé quelque chose comme 6 à 7%. Je ne sais pas si ça vous paraît plausible.
Ça paraît plausible. Ça paraît plausible.
Le trafic aérien.
Mais en même temps, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que les charters restent, ont une cible de clientèle très particulière, enfin relativement ciblée, assez particulière, hein, comme Jean-Baptiste Frétigny vient de le dire, alors que l'ensemble des autres acteurs, pour faire la différence avec ce qui existe aussi par comparaison, l'ensemble des autres acteurs tendent, eux, à avoir des clientèles beaucoup plus diversifiées, puisque EasyJet, parangon du low-cost européen, fait 24% de son chiffre d'affaires avec les clientèles affaires, pour donner un exemple.
Alors attendez, ce que vous appelez clientèle affaires, parce que moi, il m'arrive de prendre un vol low cost par EasyJet, je vois pas où sont les cabines, les sièges à faire. Je croyais que dans le low cost, qui veut dire à bas coût, hein, je sais pas pourquoi on fait du franglais, mais ça s'est imposé. Compagnie à bas coût, je croyais justement qu'il y avait une espèce de modèle un peu unique.
Pas vraiment. En tout cas, plus vraiment. Vous savez, quand vous réservez un billet sur EasyJet.com ou voire Ryanair, vous avez des tas de d'options, hein, et notamment le fait que vous avez une option Flexi Max ou, enfin, il faudrait regarder exactement la définition marketing exacte, hein, qui vous permet d'avoir d'avoir un coupe-fil, par exemple, hein, à l'embarquement, d'avoir justement un bagage en soute. Enfin, gratuit, entre guillemets, mais vous le payez quand même, vous payez cette option Fleximax, qui fait que, finalement, même dans les compagnies low cost, vous avez différentes gammes de prix. Hein, pour vous donner un exemple, par exemple, alors je sais bien que c'est pas une compagnie low cost, mais c'est l'exemple qui me vient. Par exemple, le groupe Air France KLM, avec 77 millions de passagers, n'a pas moins de 5 à 8 millions de prix différents.
Millions.
C'est une enquête qui est parue dans les Échos la semaine dernière, ou il y a 15 jours, sur les fameuses gestions, donc ce qu'on appelle du yield management. Donc on y reviendra si vous le souhaitez.
Ça veut dire, Jean-Baptiste Frétigny, pour approfondir ce que vous évoquiez à l'instant, que on n'est pas du tout dans de la. On n'est non seulement pas dans de la démocratisation, mais à la limite, on n'est même pas dans de la massification. Est-ce que ça veut dire que le transport aérien serait représentatif de la mondialisation en ce qu'il, permettrait de découper une communauté humaine en tranches de sociétés de plus en plus fines, et selon la richesse ou selon les privilèges? Comment interpréter
oui.
ça
Oui, c'est finalement un mécanisme de marché, hein, d'un marché capitaliste dans lequel effectivement on va chercher à maximiser le profit par rapport, en personnalisant le plus possible l'offre qui est faite, et y compris effectivement en affinant cette offre pour qu'elle puisse permettre de pouvoir faire payer à chacun le maximum possible selon effectivement son niveau de vie. Donc ça, c'est vrai que cette stratégie-là de segmentation, on l'observe notamment effectivement dans les différents types de compagnies aériennes, et effectivement y compris parmi les compagnies dites à bas prix ou à bas coût, que j'aime bien appeler à bas prix, parce qu'il y a aussi un enjeu de coût social lié finalement à la main-d'œuvre, puisque du côté des stewards et des hôtesses de l'air, etc., finalement, ils vont se retrouver moins payés que dans une compagnie classique. Donc, bas prix et d'un point de vue social à voir de ce point de vue-là. Mais finalement, on va trouver une très grande variabilité à la fois d'offres de voyages et finalement. On a EasyJet d'un côté qui converge un peu vers les compagnies classiques, qui va, on le voit très bien sur certaines destinations, par exemple entre Paris et Genève, capter une part très importante de ces mobilités de travail aux grandes dames d'Air France. Et puis de l'autre côté, des compagnies comme Ryanair qui vont davantage utiliser des aéroports sur des bases secondaires et ne pas servir. Voilà, les aéroports qui sont les plus proches des grandes villes, par exemple.
Pierre Agron. Si je peux nuancer, même Ryanair commence à rentrer sur les marchés des plateformes principales. Hein. Bruxelles, oui. Par exemple, commence à être investi par Ryanair. Donc,
ce que vous voulez dire, Pierre Agron, c'est que traditionnellement, le développement de Ryanair, qui est la compagnie low-cost irlandaise, qui, je crois, est en Europe celle qui propose les prix les plus bas, traditionnellement, fait partir et atterrir
de Charleroi.
Disons à une soixantaine de kilomètres des villes-centres, Beauvais par exemple pour Paris, Charleroi pour Bruxelles.
Mais Charleroi, c'est pas à Zaventem.
Non, crois que Ryanair a désormais des vols sur Bruxelles National. Donc il y a des volontés de recentrage. Hein. Et d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai lu que Ryanair commençait, à partir de Lansdowne, qui est sa base principale en Europe, à faire de l'interlining, c'est-à-dire de la mise en correspondance. C'est-à-dire que si vous faites, Porto Katowice ou Porto Cracovie, par Ryanair, si Ryanair ne propose pas le vol direct, eh bien vous pouvez passer par Stansted et Ryanair vous garantit la correspondance.
Alors, la question des correspondances, si je ne m'abuse, c'est quelque chose qui est devenu très, très, très important dans la mondialisation et le développement du transport aérien. C'est ce qu'on appelle toujours en franglais les hubs. C'est ça ? Alors, de quoi il s'agit exactement? Comment est-ce que c'est né? Et là aussi, pour vous, en quoi est-ce emblématique de, disons, de la nouvelle géographie mondiale d'aujourd'hui?
Eh bien, je dirais que c'est pas si neuf que ça. Parce qu'en fait, ça date historiquement de l'Air Deregulation Act américain de 1978, avec notamment une compagnie low cost qui existe encore comme Southwest, qui a été une parmi les premières, pionnières, et qui ont eu l'idée, donc American, ensuite United et les autres, qui ont eu l'idée justement de créer des plateformes de correspondance pour permettre de maximiser le remplissage d'avions. C'est-à-dire que on fait des, au lieu de faire des points à point et du direct, pour maximiser les remplissages d'avions, eh bien, on propose des passages vers des plateformes centrales comme Atlanta Hartsfield pour Delta ou comme New York JFK aussi pour Delta, qui permettent effectivement de concentrer un maximum de vols dans un minimum de temps et de permettre le décollage, enfin l'atterrissage puis le décollage de X destination vers Y destination et permettre ainsi une offre plus importante.
Et ça a quelles conséquences, Jean-Baptiste Frétigny, sur les aéroports? Parce qu'évidemment, hub, plateforme de correspondance, comme son nom l'indique, ça veut dire il y a plein d'avions qui convergent vers un même endroit pour que plein d'autres puissent décoller du même endroit. Et ça suppose donc des plateformes aéroportuaires.
Oui, ça a beaucoup de conséquences. Hein. Et on l'a très bien vu, à la fois aux États-Unis d'abord, puis ensuite en Europe, et maintenant progressivement aussi dans le reste du monde. L'une d'entre elles, c'est que finalement, on va concentrer une part très importante du trafic sur quelques aéroports. Donc finalement,
Un effet de concentration.
Voilà, spatial. Un effet de concentration qui est très net, hein, avec des effets d'un côté pour tous les aéroports dits en bout de ligne, qui finalement vont voir leur trafic beaucoup moins progresser, donc moins d'emplois de ce point de vue-là, et bien davantage pour ces grandes plateformes aéroportuaires. Ça s'accompagne aussi de nuisances sonores qui sont assez importantes. Pour assurer le fonctionnement de ces hubs. Donc, les riverains aussi vont finalement, d'une certaine manière, d'un point de vue sonore, en pâtir. Et puis, il y a des effets aussi qui tiennent à la concurrence des aéroports les uns par rapport aux autres. Parce que finalement, quand on prend un billet d'avion, on part de quelque part, on veut arriver ailleurs. Et là, entre le point de départ, le point d'arrivée, finalement, on va pas vraiment en changer. En revanche, on a la possibilité de faire une correspondance dans tel ou tel aéroport, bien souvent, dans bien des cas, avec finalement des temps de correspondance qui sont un peu semblables. Et donc, on va choisir l'aéroport et la compagnie aérienne qui nous convient le mieux pour un prix à chaque fois à peu près semblable. Et donc, finalement, sur ce trafic de passagers en correspondance, qui est celui qui correspond à la croissance la plus importante du trafic aérien aujourd'hui, eh bien, les différents aéroports se livrent à une vraie concurrence, les compagnies aériennes, pour attirer les passagers dans leur hub plutôt que dans celui du voisin.
Alors avant qu'on en vienne, on va dire, à une espèce de classement, c'est peut-être un peu inévitable quand même de faire un classement des aéroports, on va voir quels sont les critères, et puis surtout ça peut-être vous permettra également de donner des exemples concrets des hubs qui vous paraissent les plus représentatifs. Vous avez évoqué, Jean-Baptiste Frétigny, les nuisances, et je voudrais qu'on en parle quelques instants, en particulier grâce à un extrait d'un reportage que Géraldine Allot avait diffusé sur France Inter le 17 novembre 2011. Il s'agit de l'aéroport d'Orly, donc au sud de l'Île-de-France.
Ça va dans le bon sens, puisque les avions volant 300 mètres plus haut vont faire un peu moins de bruit. On estime le gain environ à 1-2 décibels. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant, parce que 1 ou 2 décibels sur 75 ou 80 décibels, ou même parfois davantage, on s'attend à mieux. Si vous avez de plus en plus un passage d'avion, au bout d'un moment, on risque d'annuler l'effet positif.
Avec cette nouvelle mesure, seuls 86 000 riverains de Roissy et d'Orly sont exposés à un bruit supérieur à 65 décibels. Ils étaient 217 000 auparavant.
France Culture, Planète Terre, Sylvain Kahn.
Alors, que penser de ces chiffres? Seulement 86 000 riverains sont exposés à des nuisances sonores, donc c'était des chiffres 2011, au lieu de 217 000. D'abord, au cas où vous le sauriez, Jean-Baptiste Frétigny ou Pierre Ageron, est-ce que cette projection s'est confirmée? Puisque là, on voit bien, on était sur au début, hein, disons, d'une nouvelle réglementation et d'un nouveau dispositif physique qui devait permettre qu'il y ait moins de riverains. Mais ça veut quand même dire que si ça a marché, peut-être allez-vous nous le dire, il y aurait donc encore autour d'Orly 86 000 personnes qui, chaque jour, subiraient des nuisances sonores. Et Orly, comme on le sait, c'est un aéroport très important pour la France, mais c'est pas un grand aéroport à l'échelle du monde. Donc est-ce que vous pouvez peut-être, nous parler un peu de la hiérarchie des aéroports, en commençant par cet angle des nuisances, qu'elles soient donc sonores, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient en termes de pollution, parce que ça fait là aussi sans doute partie des ombres et des lumières de la mondialisation telle que la révèle le transport aérien. Jean-Baptiste Frétigny.
Oui, effectivement, c'est un angle intéressant pour apprécier finalement ces grands aéroports mondiaux. Alors c'est vrai que Orly aujourd'hui, c'est un aéroport secondaire dans le système aéroportuaire francilien. D'ailleurs, on a limité le nombre de décollages et d'atterrissages annuels. Ça fait partie des compromis avec ce paradoxe que les aéroports se développent progressivement. On les a placés relativement près des villes, mais un peu en périphérie pour assurer leur développement. Et puis, il y a un moment où, avec l'urbanisation, ils sont pris finalement dans l'aire urbaine.
La ville s'étend et donc elle finit par atteindre l'aéroport.
Exactement.
Vous dire.
Et donc finalement, on va, il y a une sorte de cycle, un peu plus loin peut-être, créer un nouvel aéroport. C'est typiquement le cas entre Orly et puis la décision ensuite de construire Roissy, inauguré en 1974, etc. Et finalement, les différents aéroports dans le monde sont très inégaux par rapport à cette question du bruit. Alors, on a des aéroports où on va trouver finalement des limitations assez fortes. À la croissance du trafic. Il y a certains exemples, par exemple l'aéroport de Los Angeles, l'Axe, qui se retrouve vraiment engoncé dans le tissu urbain de Los Angeles, et pour lequel finalement on va y concentrer, même s'il s'agit d'un des premiers aéroports des États-Unis, le trafic international en déportant toute une partie du trafic régional, local, sur d'autres plateformes à proximité. Un autre exemple assez emblématique, c'est finalement Londres Heathrow, donc qui était pendant très longtemps le premier aéroport en nombre de passagers internationaux, devancé maintenant par Dubaï, et qui là aussi voit une partie de son trafic de fait reporté sur d'autres aéroports, y compris pour le trafic en correspondance, où notamment Amsterdam est un aéroport qui assure toute une série de liaisons pour des aéroports du Royaume-Uni.
On part avec l'Écosse notamment.
Exactement. Et donc, on va entendre parler beaucoup avec l'accent britannique, parce que finalement, Amsterdam sert de plateforme de substitution par rapport à Heathrow.
Vous avez évoqué Dubaï, Pierre Ageron. Est-ce que ça veut dire que cette croissance ou cette importance prise par des aéroports comme ceux du Golfe, ça va de pair avec l'importance qu'on prête aux compagnies aériennes des Émirats du Golfe, dont on parle beaucoup, notamment parce qu'elles sont très associées à quelques grands clubs de football comme Manchester City, qui a joué hier, ou comme le Paris Saint-Germain, que Manchester City a éliminé il y a assez peu de temps. Le Monde avait même expliqué qu'il y avait un espèce de golfico, c'est-à-dire... Bon, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu la même chose, finalement, avec les compagnies aériennes et leurs aéroports? Et en fait, le sens de ma question, c'est... est-ce que c'est juste un phénomène en soi, ou est-ce que c'est le signe d'une évolution de la hiérarchie des puissances? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne fait pas trop dire à l'importance de l'aéroport de Dubaï ou à l'importance de compagnies comme Emirates en disant, vous voyez, ça veut dire que les Émirats sont devenus très très importants dans la mondialisation. Est-ce que ce n'est pas juste un phénomène ponctuel et marginal?
Alors, il y a beaucoup à dire là-dessus. Je vais commencer par une petite anecdote justement footballistique, puisque vous m'y invitez un peu. J'ai lu que pas plus tard que la semaine dernière, Emirates a peint un de ses nouveaux A380 aux couleurs de la FA Cup anglaise. Donc c'est pour vous dire que c'est un...
Donc la coupe du championnat de football
anglais. Les carlingues des avions, et notamment des A380 qui font les principales routes mondiales, qui sillonnent les principales routes mondiales, sont des agents très puissants de publicité et de marketing à la fois territorial, comme ça a été le cas pour Cathay Pacific et Hong Kong, mais aussi de marketing plus direct pour des clubs de foot ou autres. Donc...
Avant que l'émission ne commence, vous m'avez aussi donné un autre exemple de ce que vous décrivez à l'instant, avec une compagnie chinoise dont la carlingue est maintenant à l'effigie de Disneyland Shanghai, c'est ça ?
Le dernier né des parcs Disney. Oui. Donc effectivement, c'est un agent très puissant de publicité, finalement, non pas gratuite, mais en tout cas qui tourne autour de la Terre et donc qui permet de fidéliser parfois, peut-être, un certain nombre de publics. Sur précisément les stratégies émiraties et moyen-orientales, je dirais que, bon, il est clair que Emirates, la première, 85, puis Qatar, 1993, je parle sous le contrôle de Jean-Baptiste, puis Etihad 2003, ont des stratégies un petit peu similaires, qui est celle d'exploiter leur centralité géographique, là, pour le coup, entre l'Europe, entre les États-Unis et l'Europe d'une part, et l'Asie orientale, qui est devenue le premier foyer de clientèle du transport aérien international. Alors, il est vrai que c'est plutôt des stratégies qui sont basées effectivement sur cette position intermédiaire, cette intermédiarité, et donc ce phénomène de hub, puisque évidemment il est clair que même si Dubaï a un très très gros aéroport, il est clair que Dubaï n'est pas devenue une ville mondiale au sens de Saskia Sassen et autres.
C'est pas une destination. Enfin, non, il y a bien sûr des gens qui vont faire des affaires à Dubaï, mais
c'est assez peu une destination. C'est-à-dire, Dubaï commence à être une destination. C'est beaucoup moins le cas, par exemple, à Abu Dhabi ou à Doha, à mon sens. Mais de fait, il y a vraiment une on joue sur cette intermédiarité, sur cette position, j'allais dire postcoloniale de comptoir commercial.
Oui, c'est une vieille histoire.
Voilà,
en fait.
C'est ça. Et finalement, la métropolisation, c'est-à-dire le fait de concentrer les activités à haute valeur ajoutée dans un nombre restreint d'aires urbaines, hein, si on reprend la définition canonique, ne s'applique pas véritablement. Hein. C'est pas parce qu'on peut atteindre des multiples destinations à Dubaï que forcément une multitude, même si on fait des affaires à Dubaï, mais une multitude, de positions dominantes vont s'installer à Dubaï, puisque en fait Dubaï ne concentre que 2 millions d'habitants, ce qui est quand même très faible au niveau mondial si on les compare aux très grandes villes.
Alors précisément, quels sont les très grands aéroports qui correspondent à des très grandes métropoles mondiales, au sens où vous en parliez à l'instant. Et question dans la question, est-ce que, à la différence de Dubaï, vous avez pu voir l'un et l'autre des fonctions aéroportuaires, contribuer à créer une très grande ville mondiale ? Pierre-Jean.
Moi, l'exemple qui me vient, parce que je le connais un petit peu, c'est Hong Kong. Hong Kong est devenue la porte d'entrée, ancienne colonie britannique, et elle est devenue la porte d'entrée de l'ensemble du marché chinois, mais est quand même considérée comme destination internationale vis-à-vis du marché chinois. Donc ce qui lui permet, de jouer sur les deux tableaux, à la fois proximité avec un immense marché et en même temps facilité d'une plateforme qui n'est pas soumise aux mêmes réglementations que la Chine continentale. Donc il est vrai que Hong Kong s'est peu à peu imposé comme une véritable aéroville, airport city, aéropolis, il y a des multiples dénominations à ces villes-là.
À sens de ville créée par la fonction aéroportuaire.
Par et l'aéroport étant devenu elle-même un double de la ville, ou une ville dans la ville. Sylvie Brunel parlerait de Disneylandisation et de Disneylandisation de la ville par l'aéroport, puisqu'en fait, par exemple, sans sortir de l'aéroport, de l'enceinte juridique de l'aéroport lui-même, vous pouvez bien sûr jouer. Il y a un cinéma à Hong Kong, dans les enceintes de l'aéroport international de Hong Kong. Il y a aussi, je crois, des possibilités. Il y a une patinoire. Enfin, il y a des tas de services qui sont véritablement urbains.
Alors, je vous propose sur ce sujet d'écouter un autre reportage qui avait été réalisé en 2014, celui-ci, toujours sur France Inter. C'était dans le Zoom de la rédaction le 13 mars 2014 et ça se passe à Roissy. Il s'agit d'une chaîne de salons de massage.
On n'est pas du tout dépendant de l'économie locale, en fait. C'est vraiment une France complètement différente. On est quand même en période de crise en ce moment et les aéroports, ils présentent une croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aéroport de Paris croît. L'Oréal a dernièrement dit le travel retail est le sixième continent. Ça veut dire que le marché est en plein boom. Il y a une explosion du trafic aérien. On voit les commandes incroyables d'Airbus et de Boeing. Ils atteignent des records historiques. Il y a énormément de choses à faire en aéroport.
Alors, Jean-Baptiste Frétigny, bon là c'est l'exemple de CDG, mais on a choisi avec Luc-Jean Reynaud ce reportage parce qu'il y a deux formules très fortes. Bon, une France complètement différente, un sixième continent. Alors, au-delà de l'exemple francilien, est-ce qu'il y a d'autres aéroports dans le monde qui, pour vous, illustrent ce phénomène de création quasiment ex nihilo de villes aéroportuaires qui, finalement, se déconnectent peu à peu du territoire sur lequel elles sont à l'origine implantées. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer là aussi comme conclusion sur la mondialisation ?
Oui, c'est toujours les deux. C'est-à-dire, bon, sur ce discours de l'aéroville, c'est un discours qui a aussi une grande dimension marketing. Hein. Il s'agit pour les gestionnaires d'aéroports, aéroports de Paris, mais bien d'autres, aussi d'attirer de multiples investisseurs pour qu'ils viennent investir soit sur la plateforme, soit à proximité de la plateforme. Et si c'est sur la plateforme, c'est tout bénéfice pour le gestionnaire d'aéroport parce qu'il va en tirer des revenus liés notamment à la location de ces différents espaces. Donc, il ne faut pas être naïf là-dessus. Ces gestionnaires d'aéroport, au départ, ils étaient essentiellement centrés sur des missions aéronautiques, permettre le décollage, l'atterrissage des avions, des passagers, du fret, etc.
C'est surtout ce qu'on attend d'eux, d'ailleurs.
Voilà, c'est surtout ce qu'on attend d'eux. Mais quand on regarde finalement là où sont leurs revenus aujourd'hui, on voit que les revenus aéronautiques très souvent représentent la moitié ou moins de l'ensemble de leurs revenus. Pourquoi ? Parce qu'ils les diversifient, notamment en devenant finalement un opérateur foncier qui va louer justement ou accompagner le développement à proximité de cet aéroport. Donc à l'aéroville, c'est là finalement une manière de présenter un développement urbain qui, en partie, relève plus de l'imaginaire que de la réalité. Il y a aussi des échecs retentissants en matière de développement à proximité
de l'aéroport. Où ça, par exemple ?
Y compris, finalement, à Roissy, c'est-à-dire le dôme qui a été lancé au début des années 1990, en 1992, un ensemble, finalement, de bureaux qui finalement n'a pas trouvé preneur immédiatement. On imaginait qu'il allait y avoir toutes sortes d'entreprises qui allaient s'implanter parce qu'on était juste à côté des avions et que ce serait très facile de réaliser, de faire des rendez-vous d'affaires là-bas. Et finalement, on se rend compte, d'abord ils ont eu la crise de 1993 de plein fouet, et ensuite on s'est rendu compte, c'est toujours le cas aujourd'hui, que ces bureaux sont occupés par des entreprises qui sont directement en lien avec la rien, parce que finalement, tout le monde ne souhaite pas forcément travailler au milieu d'un espace aéroportuaire quand on n'a pas quelque chose à voir de très précis, de très étroit avec ce secteur. Donc, voilà, prudence.
Est-ce que là, parce qu'on est sur quel type de logique foncière et immobilière ? Est-ce que la puissance publique régule ça, ou est-ce que c'est finalement des portions des espaces nationaux, appelons-les comme ça pour faire vite, que ce soit à Hong Kong, que ce soit en Île-de-France, que ce soit, vous avez tout à l'heure parlé du Grand Londres, de Los Angeles. Est-ce que là, les puissances publiques ont, je sais pas, je vais peut-être dire n'importe quoi, est-ce qu'il y a des plans d'urbanisation des sols, ou est-ce qu'en gros, on dit, là, il y a l'équivalent de 15 terrains de football, on trouve des promoteurs, on privatise les opérateurs, parce qu'avant, tout ça, c'était quand même public, il y a un certain nombre d'années, et puis on leur donne les clés qui se débrouillent, quoi. On est dans quel type de logique ? Et est-ce que c'est comme ça dans tous les pays du monde, que ce soit les pays industrialisés, les pays en voie de développement, les pays émergents ?
Oui, c'est une excellente question, parce que finalement, par aéroville, on entend développement urbain, on entend diversité des activités qui sont hébergées, mais on se pose assez peu la question de savoir finalement qui va gouverner, qui va piloter ce morceau de ville, qui me semble vraiment un morceau intégré dans des espaces urbains plus larges. Et l'aéroport est finalement emblématique d'espaces urbains en réseau déployés
parce qu'ils sont
sur
pas
toute
élus,
la planète.
Mais... je sais pas, l'équivalent du maire pour l'aéroport de Hong Kong ou
tout
le lac de Los Angeles ou Roissy CDG, je sais pas qui dirige tout ça, mais personne vote pour eux.
Non, ce sont des compagnies privées à capitaux privés en majorité, donc il y a effectivement une concertation évidemment avec.
Avec qui?
Avec les collectivités territoriales. Je parle sous le contrôle de Jean-Baptiste ici, mais il y a quand même, en tout cas pour le cas français, des concertations. Mais il peut y avoir aussi, et c'est le cas aussi, une multitude d'acteurs. Et c'est ça qui devient compliqué. C'est-à-dire que on a aussi bien la région Île-de-France, le préfet d'Île-de-France, les conseils départementaux maintenant. D'autant que Roissy, c'est Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise et Seine-et-Marne. Donc, ce qui complexifie. En fait, absolument, absolument beaucoup la donne. Alors que, évidemment, dans d'autres pays, notamment des pays émergents ou en voie de développement plus généralement, les structures de gouvernance aéroportuaire, c'est pas forcément un bien d'ailleurs, mais sont restées très majoritairement publiques. Infraero, par exemple, au Brésil, est sous l'autorité du ministère de la Défense, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez, il y a différentes.
Qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous seriez amené à dire que c'est un bien ou au contraire, c'est pas terrible?
En fait, c'est tout simplement dans le service rendu aux passagers. Moi, c'est un critère qui me semble cohérent. Infraero au Brésil a en tout cas sous-investi ces plateformes aéroportuaires et on voit que là, à l'approche des Jeux de Rio, par exemple, ils sont totalement, enfin, tout le monde est totalement catastrophé parce que les capacités, je sais pas si on y viendra peut-être, les capacités aéroportuaires sont absolument sous-dimensionnées au Brésil. Et il y a une croissance fondamentale et forte de la demande de slots, c'est-à-dire de créneaux qui permettent de faire décoller et d'atterrir les avions, qui ne sont pas satisfaits parce que les opérations de navigation aérienne, de contrôle aérien, ne sont pas dimensionnées pour accueillir cette croissance. Donc après, il faut trouver forcément un équilibre entre l'offre et la demande ici.
Votre point de vue sur cette question, Jean-Baptiste?
Oui, c'est une question très très épineuse, et c'est vrai que au-delà de les connotations que peuvent évoquer la notion d'aéroville, derrière il y a des enjeux politiques extrêmement puissants. Un bon exemple, c'est la question des nuisances sonores. Donc là, c'est effectivement la partie pour laquelle il y a le plus de concertation qui est prévue pour les pays occidentaux, c'est certain. Même si dans l'histoire même de construction de ces aéroports, on peut trouver des tensions extrêmement fortes, même des morts à certaines occasions, comme pour l'aéroport de Francfort, l'extension de sa troisième piste. En revanche, effectivement, des pays autoritaires ou semi-autoritaires comme les Émirats vont se retrouver avec là-dessus vraiment un blocus sur ces questions tabou, parce que finalement la politisation n'est pas véritablement possible. En revanche, en ce qui concerne par exemple les espaces publics aéroportuaires, parce que finalement on parle d'aéroville, mais si c'est un morceau d'espace urbain en tant que tel, ces espaces publics, il y a des enjeux d'appropriation par des publics variés, bien au-delà des passagers. Et là, on voit aussi de forts contrastes. Par exemple, à l'aéroport de Francfort, la Cour de justice constitutionnelle a finalement reconnu un droit de manifester. Voilà, la Cour allemande de Karlsruhe, un droit de manifester, parce qu'il y a des enjeux politiques très forts liés à la mondialisation. L'expulsion des migrants, leur reconduite à la frontière, les questions de refus aussi de départ, par exemple, de militants pro-palestiniens en direction d'Israël, etc. Et donc, manifestation de riverains. Et donc là, il y a autorisation. Dans le cas français, par exemple, ça n'est pas possible. Les salariés peuvent manifester et s'exprimer d'un point de vue syndical, mais ça n'est pas possible pour les autres types de manifestations. On peut aussi prendre l'exemple des personnes sans abri, qui sont assez nombreuses finalement à occuper ces espaces-là, qui est une question assez épineuse là aussi. Et quand on va, par exemple, à l'aéroport de Dubaï, qu'on regarde attentivement, on va pas en trouver un seul. Bon, ce qui reflète plus généralement une position au sein de l'Émirat. Mais on voit bien ici que finalement, aéroville, c'est aussi des questions sociales et politiques très prégnantes.
Donc en fait, il y a des contradictions, là, que vous venez d'évoquer, entre ceux qui bénéficient de la liberté de circulation, par exemple, et ceux à qui, d'une certaine manière, elle est retirée. Est-ce qu'il y a d'autres, comme ça, d'autres grandes contradictions qui vous paraissent, dont le développement du transport aérien, je vous demandais tout à l'heure, au début de l'émission, massification ou démocratisation, dont le développement du transport aérien vous paraissent emblématiques, Pierre Ajon?
J'en vois une, mais il y en a certainement plusieurs. Une qui est la diffusion, et notamment dans un contexte de anxiogène, de mise en valeur de la sécurité, hein, celle de la diffusion de l'espace réservé aux passagers seuls vis-à-vis de l'espace public. Hein, fameuse distinction anglaise entre airside et landside. C'est-à-dire que moi-même, c'était avant 2015, hein, mais j'ai assisté, par exemple, à Lisbonne, au fait que le premier contrôle d'identité, la première fouille se fait à la porte même du terminal. Ce qui se fait désormais pour Bruxelles-Zaventem après les attentats qu'on a connus le 22 mars. Mais voyez donc, en fait, la diffusion de l'enveloppe sécuritaire et privatisée pour les seuls passagers, et uniquement pour eux, tendent à à gonfler. Hein, sous,
à s'étendre, en fait.
À s'étendre. Sous, effectivement, quand même une pression de l'opinion publique pour plus de sécurité. Alors, est-ce que c'est suffisant? Ça, c'est une autre question.
Alors, en termes de trafic maintenant, parce que là, donc, on a beaucoup parlé de ces nouveaux territoires ou de cette nouvelle territorialité, entre guillemets, qui est liée à l'expansion des aéroports. Mais évidemment, il n'y a d'aéroport que parce qu'il y a du trafic. Et là-dessus, quels sont, selon vous, les deux ou trois évolutions majeures qu'il conviendrait, que vous auriez envie de signaler aux auditeurs, Pierre-Jean?
Bah, d'une part, quand même, je reviens sur la centralité de l'Asie.
Mais en même temps, l'Asie, c'est très très grand.
Oui,
l'Asie,
non, mais donc, j'y viens. L'Asie orientale.
Christian Grattalou vous dirait, oui, bah, l'Asie, c'est un continent, oui, c'est une
l'invention des continents.
Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, l'Asie?
Alors,
quoi,
hein. Je définirais deux secteurs principaux, c'est-à-dire la façade orientale de l'Asie, la façade pacifique, hein, qui connaît des évolutions de trafic extrêmement importantes. La Chine s'est un peu calmée de ce point de vue-là. Beijing, Pékin, donc, connaît désormais des hausses, là, dans ces dernières années, 2014, 2015, 2016, à plus 3, plus 4% par an, ce qui est modéré, disons. Alors que, par exemple, en Asie du Sud-Est, Jakarta connaît des hausses.
Capitale de l'Indonésie.
Voilà,
hein.
Une variabilité très forte, mais je crois qu'en 2015, entre 2014 et 2015, on était à plus 18 ou 17%. Donc,
avec la fameuse compagnie Garuda.
Garuda. Hein. Mais Garuda, il faut se tromper parce que Garuda tend à changer d'image et, par exemple, a désormais pris commande de nouveaux A330. Donc, veut aussi, comme Saoudia, par exemple, en Arabie Saoudite, veut aussi changer, d'image. Donc, pourquoi? Il y a aussi des nouveaux acteurs qui émergent. Ça, c'est une autre question. Concernant les trafics aéroportuaires en eux-mêmes, effectivement, à part cette multitude, de croissance en Asie orientale, portée y compris par les aéroports secondaires, hein, toujours en Indonésie, vous avez Medan, Surabaya et d'autres. Bien sûr, il faut pas oublier, bien sûr, quand même les aéroports du Golfe, hein, qui ont encore des taux de croissance absolument, enfin, à deux chiffres ou presque à deux chiffres.
En dépit donc de la fabrication d'avions, comment dit-on, long courrier, oui, qui arrivent maintenant à, par exemple, relier l'ouest de l'Europe à l'est de l'Asie sans avoir besoin de faire d'escale.
Ces avions comme les A380 à grande capacité, etc., sont achetés par des compagnies émiraties ou du Golfe, qui donc font passer ces avions à grande capacité dans leurs aéroports. Donc, en fait, c'est la stratégie de Dubaï de dire one stop to the world, hein, une seule escale chez nous vers l'ensemble du monde. Par exemple, Dubaï, là, a ouvert de nouvelles routes aériennes, hein, vers des lieux aussi exotiques pour les Dubaïotes que sont Panama City, Santiago du Chili, Auckland en direct, ce qui est quand même, je crois que c'est 17h30 de vol direct, hein. C'est quand même pas, c'est pas un saut de puce. Donc, ouais, c'est, bon, mais là, c'est une stratégie de long terme de la part des Émiratis. Et puis, une troisième zone qu'on peut regarder malgré tout, c'est l'Amérique latine, qui me semble quand même, malgré les affres brésiliennes en ce moment, qui me semble quand même en train de prendre une position qu'elle n'avait pas prise il y a une dizaine d'années, notamment avec les différentes fusions, concentrations du secteur, hein, la chilienne LAM et la brésilienne TAM, qui a donné de la TAM, par exemple, ou le groupe autour de Copa Airlines au Panama, ou encore le groupe Avianca, qui a des filiales en Équateur, en Colombie, peut-être au Venezuela et ailleurs. Donc, il y a des choses qui se passent en termes aéroportuaires et compagnies aériennes également dans des nouveaux centres de la mondialisation qui n'étaient pas les mêmes qu'auparavant.
En fait, si je vous comprends bien, puisque les compagnies aériennes peuvent se regrouper d'une part, et surtout elles peuvent affréter finalement des vols qui sont dans une certaine mesure détachés de leur territoire d'origine, c'est un peu comme les multinationales, on peut dire ça ou pas?
Non. Enfin, j'ai mal compris. Si pour l'Europe. Oui, pour l'Europe. L'Europe a des accords de ciel ouvert depuis l'acte unique européen des début des années 90, fin des années 90, disons. 97, ouais. Le bilatéralisme, c'est-à-dire le fait de la Convention de Chicago qui stipule qu'un avion ne peut se poser ou ne peut atterrir que dans un des deux États dont les compagnies signataires sont membres, le bilatéralisme gouverne quand même encore pas mal le ciel mondial, à l'échelle mondiale. Donc effectivement, il y a des pourparlers, hein, d'open skies un peu partout, mais pour l'instant, étant donné qu'effectivement, les compagnies aériennes sont encore un actif géopolitique important, on reste sur des positions qui tendent à se libéraliser, mais qui ne sont pas libéralisées partout non plus.
Et ça, Jean-Baptiste Frésigny, vous en pensez quoi? C'est plutôt... Enfin, bon, là aussi, c'est plutôt bien que cette libéralisation soit... Alors, libéralisation dans le sens, si j'entends bien, d'une moindre souveraineté étatique nationale, ou est-ce que, au vu de ce qui se passe en Europe depuis la fin des années 80, on serait plutôt amené à considérer qu'il vaudrait mieux que ça soit une évolution qui devienne mondiale. En tout cas, on a cru comprendre que c'était mieux pour le consommateur, mais au-delà.
Oui, en fait, c'est des phénomènes qui sont à chaque fois, ou des processus qui sont à chaque fois assez ambigus. Donc là, c'est la déréglementation, effectivement, et le fait que progressivement, pour toute une série de destinations, les compagnies aériennes sont davantage libres de pouvoir choisir tout simplement les différentes liaisons qu'elles veulent faire.
C'est-à-dire qu'ici, déréglementation, ça veut dire fin des monopoles.
Ça veut dire fin des monopoles, ou en tout cas de négociation des droits. Alors classiquement, on avait entre deux pays, les compagnies nationales de chacun des deux pays qui se répartissaient le trafic, et ça a fonctionné comme ça pendant de nombreuses années. Cette déréglementation, c'est elle qui a favorisé justement le développement des hubs. Donc c'est pour les passagers, finalement, c'est ambigu. C'est-à-dire que oui, ça a pu contribuer par exemple à baisser le coût du billet d'avion, mais en même temps, ce fameux one stop dont parlait Pierre Ageron va s'imposer davantage. Donc on se retrouve davantage à faire des correspondances là où auparavant on avait davantage de vols directs. Ça c'est sûr. Ça dépend un peu du point de vue, hein, parce que cette ouverture par exemple des droits du trafic progressive, par exemple entre la France et les Émirats arabes unis, elle se fait au détriment d'Air France. Hein, donc c'est en fait des accords, alors qui selon l'OMC sont pas sont théoriquement pas tout à fait légaux, mais qui consistent finalement à échanger. On l'a très bien vu par exemple pour le Qatar, l'achat d'Airbus par Qatar Airways, et en échange des droits de trafic aérien supplémentaires. en direction des aéroports français. Donc, Qatar Airways peut plus souvent, finalement, prendre des passagers et donc contribue aussi à prendre des passagers à Air France. Donc, on a préféré, et ça, c'est une position qui est assez classique pour de nombreux États européens, préférer le constructeur Airbus à la compagnie aérienne porte-drapeau Air France. Et puis, du côté d'autres pays, finalement, c'est cette réglementation. Elle était aussi épineuse. Elle empêchait aussi le développement des compagnies aériennes nationales. Il y a un bon exemple, c'est Singapore Airlines. Singapour se retrouvait bien dépourvu à devoir négocier ses accords avec les autres États, qui eux considéraient que Singapour était finalement, pendant de nombreuses années, une cité-État relativement marginale et qui a empêché pendant de nombreuses années le développement de Singapore Airlines. Donc là aussi, derrière ces enjeux de réglementation des réglementations, il y a des acteurs qui vont en profiter ou pas.
Alors, à propos d'acteurs, vous avez évoqué ici quelque chose auquel on ne pense pas spontanément. Il faut être bien informé et bien affûté, si j'ose dire, comme vous l'êtes l'un et l'autre, à savoir que l'État français peut, à un moment donné, mais c'est l'exemple français, mais j'imagine que ça vaut pour d'autres États, peut être amené à privilégier le constructeur, donc l'industriel, plutôt que la compagnie aérienne, donc plutôt que le service. Est-ce que ça s'explique, ça, Pierre Ageron, par le fait que, sauf erreur de ma part, il y a toujours... Au jour d'aujourd'hui, ça va peut-être changer avec l'essor des pays émergents, notamment l'Inde et la Chine, mais aujourd'hui, il y a toujours quand même une assez forte concentration dans le secteur des, comme on dit, des avionneurs, je crois, hein, ceux qui construisent des avions, alors que par contre, pour la raison que vous avez expliqué l'un et l'autre, il y a maintenant énormément une très large palette de compagnies aériennes.
Sur la géographie et l'économie des avionneurs, je parlerai de triple duopole, trois duopoles. Duopole plus connu Boeing et Airbus pour les longs courriers à forte capacité ou les moyens courriers à forte capacité. Autre duopole pour les turbopropulseurs, les avions à hélice, entre ATR, le franco-italien et... Bombardier, le Canadien, voilà.
Et ça fait des petits avions, non ?
Oui, ouais, c'est ça, c'est les turbopropes, donc c'est 50 à 80 places maximum pour des courts courriers, des courtes distances, mais généralement, par exemple, très utiles en milieu insulaire, aux Antilles, par exemple. Aussi, troisième duopole, je répondrai à votre question, troisième duopole, c'est justement des avions, des jets, donc comme les Airbus, mais à petite capacité, ce qu'on appelle des regional jets. Donc là, avec des avionneurs comme Embraer, le brésilien, et Canada Regional, l'autre canadien. Donc en fait, on a trois segments dans le marché des avionneurs qui sont assez, séparés, et où on voit que effectivement on a toujours malgré tout avec le duopole une position d'oligopole puisqu'évidemment malgré tout les savoir-faire sont assez complexes, aéronautiques sont assez complexes et donc un nouvel arrivant ne peut pas s'installer comme ça sur le marché. Airbus a mis 40 ans depuis les années 40 ans de 70 à 2000 pour arriver plus ou moins à concurrencer Boeing en termes de part de marché et désormais on est à 50-50.
Et au passage, vous venez de nous indiquer, moi je ne le savais pas en tout cas, que sur ces trois duopoles, il y a deux fois le Canada qui revient.
Oui, alors il faudrait vérifier Canadair Jet parce que ça a dû... je ne sais pas s'ils ont été rachetés après. Faudrait vérifier...
Enfin, en tout cas, ça veut dire qu'il y a une tradition canadienne. Voilà, il y a une tradition canadienne.
De toute façon, Bombardier et Montréalais, le siège de l'OACI, l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile, est à Montréal. Donc, il y a vraiment une tradition industrielle, un cluster aéronautique québécois qui est très très fort. Après, effectivement, par rapport au trafic aéroportuaire... lui-même, Montréal a un peu perdu de sa superbe vis-à-vis de Toronto et vis-à-vis de son grand voisin new-yorkais, mais ça c'est autre chose.
Est-ce que ce paysage industriel des avionneurs, dont on dit, vous allez nous le confirmer, au contraire nuancer, dont on dit qu'il est très important parce qu'il a des effets d'entraînement très grands, notamment sur une myriade de sous-traitants, et que donc, notamment pour l'emploi, la création de valeur et de richesse, c'est peut-être aussi important que les sous-marins, dont on a beaucoup parlé depuis le début de la semaine. Est-ce que là, la concurrence des pays émergents, est-ce que vous pensez que dans les années qui viennent, en clair, les constructeurs chinois ou indiens, s'il y en a, ou d'autres pays émergents, vont venir prendre des parts de marché aux constructeurs traditionnels?
Alors, je pense, à mon sens, il y a peut-être une seule menace à relativiser, à mon sens. Bon, l'Inde, pour l'instant, on voit rien venir vraiment sérieux.
Et puis, ils ont des lanceurs de fusées.
Oui, mais ils n'ont pas,
ils ont pas d'avion.
Non, c'est très, dans le dictionnaire de l'Inde contemporaine dirigé par Frédéric Landy, vous avez un très, très gros article sur sur les lanceurs de fusées, mais sur l'aéronautique, vous n'avez rien. C'est un petit exemple, petite anecdote. Et puis, par contre, la Chine, effectivement, a une stratégie réelle pour ses propres avionneurs. La Comac, hein, qui est une très, très grande entreprise. Bon, en revanche, c'est un petit peu comme je disais aussi, c'est un peu l'Arlésienne, la Comac, hein. C'est-à-dire que, on fait des annonces, on les retire, on reporte. Là, j'ai entendu il y a un mois de cela que le premier vol du C919 ou du C929, je sais plus quel modèle, sera reporté de 2 ans, de 2017 à 2019. Donc, pour l'instant, c'est franchement pas une industrie mature pour la Chine.
Mais ça va venir.
Ça viendra peut-être, mais à voir.
Alors, on évoquait rapidement, et on peut peut-être le faire un peu plus longuement, la question de la régulation internationale. Hein. Vous avez dit qu'à Montréal, il y avait le siège, si je vous ai bien entendu, de la fameuse IATA, c'est comme ça qu'on l'appelle?
Non, c'est l'OACI.
L'OACI, pardon.
L'Organisation internationale.
Mais il y a aussi le siège de l'IATA.
L'aviation, oui.
Et de la CI, donc l'IATA étant l'organisation des transporteurs aériens, donc des compagnies aériennes, et donc l'OACI des différentes aviations civiles, donc
dépendant de l'ONU.
Et puis, il y a aussi le siège de l'association, qui est en fait le groupe de pression des gestionnaires d'aéroports.
La CI.
Il y a beaucoup de choses qui se passent à Montréal de ce point de vue-là.
Moi, j'avais surtout entendu parler de l'IATA et très peu de cette OSCI qui donc dépend de l'ONU. Quelles sont leurs fonctions, Jean-Baptiste Frattini, à l'une et à l'autre? Et est-ce que c'est pas un peu en contradiction à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire avec le fait qu'il y avait surtout des accords bilatéraux et que finalement, il n'y avait pas du tout à l'échelle du ciel mondial l'équivalent du ciel unique européen qui permet, derrière cet affreux mot de déréglementation, de faire qu'il y a tout un tas de gens qui, maintenant, en Europe, peuvent voyager pour sans avoir à casser leur tirelire, mais avec l'inconvénient que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir que les conditions de travail se sont considérablement dégradées. Jean-Baptiste Frattini, sur cette régulation internationale.
Oui, en fait, il y a des réglementations partielles par rapport à ces enjeux de droit de trafic, mais par ailleurs, il y a toute une série de règles, et donc l'OACI ne se prive pas d'encadrer le transport aérien de bien des manières liées notamment à cette sécurité du transport aérien.
C'est ce qui fait que c'est le mode de transport le plus sûr au monde, contrairement aux apparences, non, Jean-Baptiste Frattini?
Contrairement aux apparences, oui.
Il y a eu moins de 70 accidents d'avion en 2015, je crois.
C'est l'année, selon les annales, effectivement, de l'OACI, là, pour le coup. C'est l'année la moins accidentogène de l'histoire du transport aérien, 2015.
Sachant que là, on exclut, évidemment, les attentats,
Oui, je sais même pas si.
C'est ce que j'ai lu, moi.
Oui. Donc, c'est vraiment une, parce que les procédures sont extrêmement normées, C'est-à-dire que, effectivement, les checks sont les mêmes partout dans le monde, etc., etc. Donc, ça induit une culture de la sécurité qui est absolument, les mêmes et absolument répandue. Et donc, c'est-à-dire qu'on a aussi, il faut faire la différence entre la safety, donc, qui est la sécurité des aéronefs, et la sécurité qui, elle, est la sécurité des passagers liés justement aux régulations contre des intrusions terroristes. Donc c'est un autre débat, mais...
C'est un autre débat, et donc ça tombe bien car nous pourrons avoir ce débat un autre jour, mais pour aujourd'hui, Planète Terre, c'est fini. Pierre Ageron, Jean-Baptiste Frattini, je vous remercie beaucoup pour vos précieux éclairages. Et puis, puisque nous sommes en public, ça nous arrive rarement avec donc les lycéens de la classe de terminale ES1 du T, terminale ES1, je vais arriver à le dire, du lycée Henri Avril de Lamballe, dans les Côtes d'Armor, je le précise, près de Saint-Brieuc, mais pas très loin de Dinan non plus. Je propose que vous soyez applaudis. Voilà, merci. Puis c'est très agréable. Je vous remercie à tous, tous les terminales, d'être venus. Je remercie votre professeur Yvonique Lelay, professeur d'histoire géo, donc qui a eu cette idée quand il m'a contacté il y a quelques mois, mais je crois que c'est dans un programme de visite assez fourni pendant 48 heures ou pendant 3 jours à Paris. Alors, je remercie bien entendu Luc-Jean Reynaud, Jean-Richard Dufour et Nicolas Slimani qui était en régie, puis Catherine Madure, Anaïs aussi qui est avec nous, et puis la documentation sonore de Radio France qui nous ont accompagnés en régie et dans la préparation de l'émission. C'était donc Comment l'avion transforme le monde. Cette émission, vous pouvez également la réécouter pendant 1000 jours, vous pouvez la podcaster durant une année, et puis vous pouvez aussi la suivre sur mes comptes Twitter et Facebook. Alors demain, jeudi, c'est la suite donc de Culture Science, chaque jour à 16h, et ce sera Aurélie Luneau qui, dans sa marche des sciences, vous propose un sujet quasiment philosophique, puisque le titre c'est « D'où viens-je ? Qui suis-je ? Aux origines de la vie et après ?» Et elle invite Alexandre Ménège. Voilà, donc je vous invite bien entendu à écouter toutes les émissions de Culture Science tous les jours à 16h. Planète Terre, la semaine prochaine, ce sera mercredi, comme à chaque fois. Et puis pour l'instant, je vous remercie de votre attention et de votre fidélité.